Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Plus de 100 mètres dans la carène du bateau.
Et voilà, 9h47 minutes, on parlait du Titanic. On se rappelait des souvenirs, Christian Page et moi, parce qu'aujourd'hui, 107 ans,
Jour pour jour,
le Titanic frappait donc l'iceberg à 22h30 et dans la nuit du 15...
Du 14 au 15 avril.
Du 14 au 15, vers 2h du matin, 1h30, voilà. 2h, il coulait. Mais ça ne sera pas notre sujet ce matin.
Non.
On va parler du Silver Bug.
Le projet Silver Bug.
C'est un projet qui est né en 54. J'avais vu des images, 60-61.
Voilà.
On
va faire un saut dans le temps, si tu le veux bien. On est en avril 1954. Hein? L'heure est un peu au bilan. Les Américains viennent de sortir de la guerre de Corée. La situation s'envenime du côté du Vietnam. On est à 18 mois avant le déclenchement de la guerre du Vietnam. Donc, on est à peu près une période charnière. C'est la période des bilans. Et là, les Américains, on le sait, ils n'aiment pas être pris au dépourvu. Hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ils ont regardé les échecs du Troisième Reich et ce qui avait coûté la victoire aux Allemands contre la Russie, c'était le fait qu'on avait attaqué les Russes sur un territoire gelé dans la neige et eux, ils pouvaient, combler cette lacune. Alors, les Américains, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, ont fait l'opération à High Jump en Antarctique où ils se sont pratiqués au cas où un truc semblable arrivait pour pouvoir affronter les Russes. Et là, donc, on fait un peu ce bilan-là avec la guerre de Corée et les Américains se rendent compte qu'ils sont vulnérables sur plusieurs tableaux. Le premier, c'est lorsqu'on est en conflit dans un territoire boisé avec de la jungle, il est difficile. Bon, il faut éliminer l'idée de construire des pistes d'atterrissage dans la jungle.
C'est trop dangereux.
C'est beaucoup trop dangereux. Mmh. Ensuite de ça, on peut utiliser des hélicoptères, mais ça demande une grande zone. Hein, il faut déforester une grande zone.
Oui.
Ou bien placer les camps vers les endroits où il y a des clairières, mais ce n'est pas forcément les meilleurs endroits stratégiques. Les Américains se rendent compte également que leurs propres bases militaires sont névralgiques. Hein. Il suffirait, par exemple, aux Soviétiques de lancer des bombes sur les pistes d'atterrissage dans les grandes bases militaires et les avions seraient littéralement cloués au sol. Donc, on se rend compte qu'on est névralgique. On se dit qu'il faudrait développer un super engin, le projet Y. Construire un véhicule à décollage vertical qui pourrait être à la fois une espèce de Jeep volante, mais en même temps un engin stratégique qu'on pourrait utiliser comme un avion de chasse. Mmh. Alors, le projet Y est né, et crois-le ou non, l'idée, c'est de construire une soucoupe volante. Alors là, on sent déjà que ça va pas bien. On est donc en avril 54. En décembre 1954, le Pentagone rencontre des dirigeants de la compagnie Avro Canada. Et la compagnie Avro Canada, à ce moment-là, est en train de mettre au point un super chasseur, l'avion Arrow. Le CF-105. Écoute, on pourrait faire une émission complète sur cette histoire-là, parce que l'appareil était très performant et pour des raisons qui restent nébuleuses, en 1959, le gouvernement de John Diefenbaker a décidé de plier devant Eisenhower et de mettre un terme au projet de l'avion Arrow, qui était quand même passé de 2 millions de pièces à l'époque à 12 millions. Donc, c'est un peu l'élément qu'a évoqué Diefenbaker. Si le projet coûte trop cher, on met la clé dans la porte et merci.
Il y avait des clients en Europe, il y avait des clients partout.
Absolument.
Sauf qu'Eisenhower voulait vendre ses missiles.
ses missiles Beaumarchais qui étaient mieux que développer des avions. Bref, on est tous dans une histoire de conspiration. Mais bref, en décembre 54, le Pentagone rencontre cette compagnie à Avro et la compagnie Avro dit, nous, on est capable de construire cet engin-là. Nom de code du projet top secret, projet Silverbug. Et je t'ai amené ici les documents du Pentagone qui concernent la mise en place du projet. Et quand tu regardes ça, écoute, on est dans la science-fiction. L'idée, c'est de construire un engin qui ressemblera à un disque. Il pourra voler au ras du sol. Il pourra grimper jusqu'à 25 000 pieds, atteindre deux ou trois fois la vitesse du son. Écoute, on est littéralement dans la science-fiction.
Oui, en plus, je pense qu'il y a, s'il y a monté à 10 pouces, c'est
écoute,
beau.
La compagnie Avro dit,
pas de bon sens.
Aucun problème, on va vous construire ça. Alors, le document que tu as en main, c'est la signature du contrat entre le Pentagone et la compagnie Avro pour construire ce projet Silverbug, l'insecte d'argent. Et ultimement, on va arriver à quelque chose de tout à fait différent. On va arriver à un engin qui ressemble à...
Ah, le jeu, oui, oui.
et qui ressemble en fait à une turbine placée au milieu d'une coquille de métal avec deux pilotes.
Ça ressemble à mon aspirateur.
Une ouvreur. Écoute, ça fait un bruit épouvantable. Ça s'élève de quelques mètres à peine au-dessus du tarmac. Ça ballotte à gauche et à droite. Aucune stabilité. C'est un épouvantable gouffre financier. La compagnie Avro doit éventuellement reconnaître qu'elle est incapable de mettre au point cette machine sur laquelle les Américains misent tant. Et finalement, en 1961, le projet de l'Avro Car, parce que son véritable nom, c'était Avro VZ9V, dit projet Y, mais finalement, l'Avro Car, qui devait remplacer, hein, on le comprend, le véhicule aurait été Si tout ça avait fonctionné, on le comprend que ça aurait été extraordinaire. L'engin aurait pu avoir un peu la disponibilité d'une Jeep volante, tu comprends, durant la guerre du Vietnam, par exemple. On aurait pu utiliser ça pour se promener en terrain marécageux et pouvoir grimper à haute altitude, chasser éventuellement l'ennemi en utilisant l'engin, mais éventuellement, le projet est abandonné. Beaucoup trop coûteux, impossible à réaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait réaliser un engin très semblable? Sans aucun doute. À l'époque, il faut bien comprendre qu'on avait des déficiences sur le plan de l'informatique. Ouais. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, on pourrait régler les problèmes de stabilité. Mais crois-le ou non, on a construit deux de ces engins-là, deux épouvantables engins que j'ai eu la chance de voir. C'est... Il en reste encore un. Et en fait, les deux existent encore aujourd'hui. Un est dans un musée. L'autre est à l'extérieur d'une base militaire aux États-Unis. Okay. Et ces engins-là ont marqué l'histoire. Et pour les amateurs d'OVNI, tu comprendras qu'il y a tout un lien par rapport aux soucoupes volantes. On se dit, est-ce que le Pentagone, les militaires n'auraient pas été inspirés de construire un engin comme celui-là en allant chercher de l'inspiration du côté des rapports concernant l'apparition d'OVNI? Il y a même certains, l'une des plus célèbres histoires d'OVNI au Canada va se passer en mai 1967 où un résident de Winnipeg va observer près de Falcon Lake deux engins en forme de disque dont l'un va se poser près de lui. Et certains ont dit, est-ce que ce n'était pas des versions améliorées des soucoupes Avro?
Et de là est né David Vincent.
il les a vus.
Écoute,
c'était le projet Avro est est en fait un ombrage sur les succès aéronautiques de la compagnie Avro qui réussissait.
Avec
l'avion Arrow, bien sûr, qui était le CF-105, qui était tout à fait remarquable, qui avait obligé finalement. Oui, on avait été obligé avec la fin de l'avion Arrow d'acheter les fameux Beaumarch missiles et on a été obligé d'acheter des avions Voodoo, hein, des CF Voodoo de fabrication américaine. Il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire, François, avec l'avion Arrow. À un moment donné, il y a eu une idée, ou en tout cas, il y a eu une rumeur que les plans de l'Arrow avaient peut-être été communiqués aux Russes. Et c'est vrai qu'éventuellement, deux ans plus tard, les Russes vont sortir le MiG-25, qui ressemble étrangement à l'avion Arrow. Mais enfin, c'était l'épopée de cette belle épopée de l'aéronautique où on essayait n'importe quoi.
Et tu me fais toujours plaisir quand tu parles d'aviation avec moi, Christian Page.
Ça me fait plaisir,
merci
François.
Beaucoup.